Radio Prague, les informations.
Plus de 35 000 personnes ont signé la pétition réclamant la démission du ministre de l'Intérieur. Un ancien candidat de l'extrême droite devient conseiller du ministre de l'Éducation et projet du ministre de l'Environnement pour enrayer la pollution à Ostrava. Un peu plus de 35 000 personnes, parmi lesquelles environ 26 000 policiers et 4 500 pompiers, ont signé la pétition réclamant la démission du ministre de l'Intérieur, Radek Yon. Au 1er mars dernier, le corps de police était composé d'un peu plus de 40 000 membres. Les représentants syndicaux remettront mardi la pétition au Premier ministre. Policiers et pompiers reprochent au ministre de l'Intérieur de ne pas leur avoir alloué un budget suffisant pour le bon fonctionnement de leurs services, ainsi qu'une réduction de leur salaire depuis le début de l'année plus importante que ce qui avait été initialement annoncé. Le ministre de l'Éducation, Josef Dobesch, a nommé Ladislav Batora, ancien candidat d'un parti d'extrême droite tchèque, son conseiller en matière économique. Jusque récemment inconnu du grand public, Batora s'est retrouvé au cœur d'une polémique lorsque ce ministre de l'Éducation a voulu imposer sa nomination en tant que son premier adjoint. Face à la pression médiatique et à celle de ses partenaires au sein de la coalition, Josef Dobesch avait décidé de n'en faire que l'un de ses conseillers. Peu après le début de la polémique, le président Václav Klaus était intervenu en faveur du candidat en publiant un article lui déclarant ses sympathies et son soutien. Le ministre de l'Environnement Tomasz Chalupa a présenté ce lundi un projet afin d'enrayer la pollution dans la région d'Ostrava dans le nord du pays. Ce projet prévoit des mesures afin de limiter les émissions de gaz industriels, les transports, des chauffages individuels ainsi que la pollution venue de la Pologne voisine. Monsieur Chalupa estime que si les mesures sont appliquées correctement, la situation pourrait s'améliorer avant le début des chaleurs estivales. Et pour la première fois depuis 17 ans, plus de 50% des Tchèques auraient confiance en l'armée, la police et la justice. C'est en tout cas le résultat d'un sondage réalisé par l'agence CVVM, publié ce lundi. Plus de la moitié des personnes interrogées ont également dit faire confiance aux médias. Moins de 50% des personnes interrogées ont confiance dans le système bancaire, les ONG et les syndicats. Et seuls 25% ont confiance en l'église tchèque. Et puis pour la deuxième année consécutive, les Tchèques se retrouvent à la première place des trafiquants de drogue en Bavière voisine. Tel est le résultat des statistiques dévoilées ce lundi par le ministère de l'Intérieur de ce land du sud de l'Allemagne, limitrophe de la République tchèque. L'an dernier, les services de police et de sécurité bavarois ont enquêté sur 289 ressortissants tchèques soupçonnés de trafic de drogue sur leur territoire. Ce chiffre est un peu plus faible qu'en 2009. Mais avec 13%, les Tchèques restent les ressortissants étrangers les plus nombreux à être soupçonnés de trafic de drogue. On finit par un mot de météo. Mardi, nous fêterons les Tatiana. En République tchèque, le soleil reviendra sur une bonne partie du territoire. Après ce lundi, un peu maussade, il faut l'avouer. Les températures varieront entre 12 et 16 degrés pour les maximales. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme qui vous sera présenté par Václav Richter.
Faits et événements en République tchèque.
Conservation des données en République tchèque. Le juge constitutionnel tchèque contre la transposition de la directive européenne. Le 140e anniversaire de la naissance de l'architecte Jan Kotěra sera fêté par toute une série de manifestations dans plusieurs villes tchèques. Le manager de l'équipe nationale de football tchèque, Vladimír Šmicer, a accordé une interview à Radio Prague. Tels sont les thèmes de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque qui a été préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Merci de rester avec nous. La conservation des données de connexion GSM ou Internet des particuliers fait depuis plusieurs années l'objet de débats. La République tchèque est récemment devenue l'un des quelques pays de l'Union européenne à déclarer inconstitutionnelle la transposition d'une directive qui devait imposer la conservation de ces données pendant au moins 6 mois. Plus de détails avec Alexis Rosenzweig.
Nutně dochází k omezení až potlačování jeho práv a svobod.
Cela a sans aucun doute pour effet de limiter ou de restreindre les droits et libertés du citoyen et il n'est plus possible de parler d'une société libre et démocratique. C'est le constat sans appel fait par l'une des juges constitutionnels, Eliška Wagnerová, la semaine dernière. Les juges de la Cour constitutionnelle ont été unanimes pour déclarer cette obligation de conservation de données de connexion contraire à la loi fondamentale du pays. La Cour avait été saisie par une cinquantaine de députés, dont Marek Benda du parti ODS.
Le principal problème est que énormément de données doivent être conservées sans que l'on sache vraiment à quoi tout cela est destiné. En plus, tout le monde y a accès et ce n'est pas possible. Je peux conserver beaucoup de données concernant un criminel, mais je ne peux pas conserver des données sur tout le monde simplement parce qu'une personne est un criminel potentiel.
La directive européenne adoptée le 15 mars 2006 impose aux États membres de conserver l'ensemble des données de connexion pendant une durée pouvant aller de 6 à 24 mois. Le champ d'action de la mesure est vaste. Elle vise à la fois les opérateurs de télécommunications, communications fixes et mobiles, SMS ou MMS, et les services en ligne. L'objectif était de lutter plus efficacement contre le terrorisme en permettant à la police d'avoir accès à ces données. Tomáš Almer dirige le département des opérations spéciales de la police tchèque. On l'écoute.
Nous allons désormais devoir, avec les opérateurs de télécommunications, trouver de nouvelles formes de collaboration moins définies après cette décision de la Cour constitutionnelle. Mais je pense qu'il existera des possibilités.
La République tchèque devient donc le cinquième pays de l'Union européenne, avec l'Allemagne notamment, à interrompre en tout cas provisoirement la transposition de la directive européenne. D'autres pays, dont la Suède et l'Autriche, s'efforcent de retarder cette transposition dans leur droit national.
140 ans se sont écoulés en 2011 depuis la naissance de l'architecte tchèque Jan Kotěra, l'homme qui a jeté les bases de l'architecture moderne tchèque. Toute une série de manifestations seront organisées à cette occasion tout au long de l'année pour rappeler au public l'importance de cet architecte dont les œuvres, qui ornent villes et communes tchèques, font partie de notre réalité quotidienne. L'année Jan Kotěra tel est le titre officiel de l'ensemble des manifestations organisées cette année. Né en 1871 à Brno, capitale de Moravie, Jan Kotěra étudie d'abord à Plzeň, puis à l'Académie des Arts à Vienne, dans la classe d'Otto Wagner, grande personnalité de l'architecture européenne de l'époque. Jan Kotěra sait très bien exploiter ce qu'il a appris lors de ses études viennoises. Dès l'âge de 27 ans, il prend le poste de professeur à l'École des Arts et Métiers à Prague et scandalise les milieux conservateurs tchèques avec la façade Art Nouveau d'un immeuble qu'il construit dans le centre de la capitale. Responsable de l'association Foibos qui organise l'année Kotěra, Oldřich Janota rappelle.
Il a été la figure de proue de l'architecture tchèque moderne non seulement en tant qu'architecte mais aussi en tant que pédagogue. Il était membre de l'association Manes et avait toute une série d'excellents collaborateurs et élèves, comme par exemple l'architecte Josef Gočar, qui ont eux aussi profondément marqué l'architecture tchèque.
Au début de sa carrière, Jan Kotěra réalise de nombreux projets mineurs. Il dessine des meubles, des wagons, des maisons de campagne pour ses amis et laisse dans tous ses travaux la marque de son originalité. C'est la période entre 1905 et 1913 qui peut être considérée comme l'apogée de sa carrière. Il s'impose alors notamment en tant qu'architecte de grands édifices publics, sans négliger cependant l'architecture de moindre dimension. Aussi, Jan Kotěra constate.
Son œuvre la plus importante est le musée de la ville de Hradec Králové et ensuite aussi la maison nationale de la ville de Prostějov. Les projets qu'il a réalisés sont nombreux. Il a consacré aussi beaucoup de son temps à la construction de villas.
C'est dans la villa Trmal, située dans le quartier des Strašnice à Prague, qu'a été inaugurée jeudi dernier l'année Jan Kotěra. Aujourd'hui siège de la société Foibos, la villa Trmal, qui est une des premières réalisations de Jan Kotěra, est donc logiquement devenue aussi le centre des activités organisées dans le cadre du 140e anniversaire de la naissance de l'architecte. Dans cette maison Art Nouveau, le public peut voir ces jours-ci une exposition d'un ensemble de mobilier unique que Jan Kotěra a créé en 1901 pour l'avocat et mécène Ferdinand Tonder. Mais ce n'est qu'un début. Oldřich Janota promet en effet que les manifestations de l'année Jan Kotěra seront riches et nombreuses.
jedna důležitá věc v kontextu vůbec moderní české architektury se odehraje od 2. května do 7.
Une manifestation importante dans le contexte de l'architecture tchèque moderne se tiendra du 2 au 27 mai prochain dans le nouveau bâtiment de la faculté d'architecture à Prague. Bâtiment que nous devons à l'architecte Alena Šramková. Cet édifice abritera l'exposition Les célèbres villas de Tchéquie et de Slovaquie. Une place importante durant cette exposition sera réservée justement aux villas réalisées par Jan Kotyra.
D'après Oldřich Janota, l'œuvre de Jan Kotyra sera aussi évoquée à Zlín, ville du roi de la chaussure Tomáš Baťa, conçue dans les premières décennies du XXe siècle par Jan Kotyra et son élève František Lidie Gahura. Enfin, en décembre, toute une série de manifestations se tiendront à Hradec Králové, devenue, grâce aux réalisations de Jan Kotyra, une des plus belles villes tchèques. Vous êtes toujours sur Radio Prague, émission internationale de la radiodiffusion tchèque. Dans notre rubrique hebdomadaire consacrée au sport, Guillaume Narguet revient à 2 derniers matchs récemment disputés par l'équipe nationale tchèque dans le cadre des éliminatoires pour le championnat de 2012 en Pologne et en Ukraine. Bilan avec le manager de l'équipe nationale tchèque de football, Vladimír Šmicer.
Sport en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle rubrique sportive. Contre l'Espagne et le Liechtenstein, l'équipe de République tchèque de football a disputé la semaine dernière les 2 seuls matchs de qualification à l'Euro 2012 figurant à son calendrier au printemps. Logiquement battu en Espagne, 2-1, et laborieux vainqueur à domicile du Liechtenstein, 2-0, les partenaires de Petr Čech et Tomáš Rosický occupent provisoirement la 2e place du groupe I, loin derrière l'Espagne, pratiquement assurée de se qualifier directement et avec 5 points d'avance, mais un match disputé de plus sur l'Écosse et la Lituanie, les 2 concurrents des Tchèques pour la place finale de 2e et de barragiste. Le lendemain de la difficile victoire contre le Liechtenstein, le manager de l'équipe nationale, Vladimír Šmicer est revenu au micro de Radio Prague sur ces 2 rencontres pour en faire le bilan. On écoute Vladimír Šmicer.
Quand je regarde notre premier match en Espagne, je pense qu'on a fait notre maximum parce que l'Espagne, ils ont montré vraiment leur qualité. On a marqué le premier but, ça nous donnait un petit peu espoir qu'on peut peut-être arriver à la fin du match avec match nous, peut-être avec gagné. Mais l'Espagne, encore une fois, ils ont montré qu'ils sont très très bonne équipe. Ils ont égalisé avec Villa, c'était mérité. Bon, après on a fait petite faute, on a donné un penalty pour l'Espagne, c'était un petit peu dommage. Peut-être si on n'a pas pris le deuxième but, peut-être ils étaient un petit peu plus nerveux, mais comme ça. Bon, l'Espagne, ils ont gagné 2-1, je pense que c'était une victoire méritée pour eux. Et dans notre deuxième match contre Liechtenstein, je pense qu'on a voulu montrer un petit peu plus. Hein. On a gagné 2-0, mais avec les manières que j'aime pas trop. Je pense qu'on devrait être beaucoup plus régulier, beaucoup plus fort techniquement, parce qu'on a fait trop de bêtises. Je pense qu'on a perdu trop de ballons dans le milieu du terrain. Et même Liechtenstein, ils avaient 2-3 occasions pour marquer le but. Alors ça, j'étais pas content avec les manières. Je pense que bien sûr on est content avec la victoire, mais la manière, il faut que c'est un petit peu différent la prochaine fois.
On sait que les matchs à domicile contre les petites équipes, entre guillemets, sont toujours très difficiles à aborder pour les joueurs. On sait qu'on peut supposer que c'était difficile aussi pour eux de se remotiver après avoir perdu de cette manière en Espagne. Malgré tout, comment expliquez-vous la différence entre les 2 matchs? C'est vrai qu'on a vu une équipe courageuse, accrocheuse, même s'il a manqué beaucoup de choses hein, dans l'animation offensive. Vous n'avez pratiquement eu aucune occasion en Espagne. Mais comment expliquez-vous cette différence entre les 2 matchs?
Bon, comme d'habitude, nous, on sait mieux défendre qu'attaque. À Espagne, on a que défendu, on a essayé, pas pris de but. Un deuxième match, on a bien rentré, on a marqué. J'avais pensé que l'équipe va être tranquille, qu'ils vont être encore plus tranquilles, qu'ils vont faire le jeu bien. Mais je ne sais pas, ils étaient nerveux, ils ont perdu trop de ballons. Pour moi, le problème, c'était les techniques. Technique dans le jeu, on a fait trop mal gestes techniquement. Et c'est ça, je ne sais pas, l'équipe était nerveuse, c'était pas assez concentré peut-être. Et les joueurs, je ne sais pas s'ils sont fatigués, je ne pense pas, parce qu'ils avaient beaucoup de temps, ils avaient 4 jours pour récupérer après le match contre l'Espagne. Alors, il faut que la prochaine fois, ils sont plus costauds dans leur tête, peut-être dans leur tête, ils n'étaient pas assez motivés qu'on a pensé.
En Espagne, à l'issue du match, le sélectionneur Michal Bilek a estimé que l'équipe aurait pu obtenir aurait mérité même un meilleur résultat que cette courte défaite de 2-1. Malgré tout, quand on regarde le match, les Tchèques ne se sont procurés aucune occasion. Ils ont marqué un but sur une frappe un peu miraculeuse de 30 mètres.
Ouais, ouais.
En revanche, vous avez jamais inquiété vraiment le gardien espagnol par rapport à ça. C'est pas quand même un peu inquiétant. Si les Espagnols marquent sur une de leurs premières occasions dans les 5 premières minutes, on peut dire que le match est déjà plié, fini.
Oui, on a essayé, nos tactiques, c'était vraiment, c'est vrai, défensif. Et on a essayé de jouer peut-être trop défensif, mais on ne sait jamais si on a été plus offensif. Peut-être on a pris plus de buts. On a mis tout sur défense et on a pensé peut-être on peut avoir la chance. Mais je pense on peut pas comparer notre équipe avec l'équipe espagnole. Vraiment, ils ont une génération de joueurs exceptionnelle. Et malheureusement pour nous, c'est peut-être vraiment le maximum qu'on a montré à l'Espagne.
Autre chose, en 5 matchs, dont 2 contre le Liechtenstein, la République tchèque n'a marqué que 6 buts.
Ouais.
C'est quand même pas beaucoup, surtout que vous avez joué en plus l'Écosse à domicile et la Lituanie, deux adversaires qui sont quand même pas terribles, on va dire.
Oui, c'est certainement pas assez pour nous. Plus, on a marqué 4 buts contre Liechtenstein. Ça veut dire que vraiment contre Écosse, Lituanie et Espagne, on a marqué que 2 buts. Surtout notre premier match contre Lituanie, malheureusement, on a perdu à 0, on a raté notre penalty, on a raté encore quelques occasions. Et ce match nous coûtait beaucoup. Et on verra à la fin de ce groupe si ça sera peut-être, c'était peut-être match décisif pour nous. Parce qu'un dernier match, on joue en Lituanie. Et ça sera très dur là-bas. Même à Écosse, ça sera match très dur.
Alors justement, vous avez maintenant, vous avez 6 mois avant de penser à l'Écosse au mois de septembre, ça se jouera là-bas, donc en Écosse. Ensuite, vous recevez l'Espagne à Prague, puis vous vous déplacez pour le dernier match en Lituanie. Aujourd'hui, quand vous regardez le classement du groupe, comment allez-vous aborder ces matchs? Êtes-vous plutôt optimiste ou inquiet par rapport à ce que vous avez produit jusqu'à présent?
Bon, c'est quand même assez difficile, ça c'est clair, mais je pense à Écosse, et même contre Lituanie, ce sont adversaires directs, c'est bien. Je ne pense pas que c'est une grande différence si on joue domicile ou extérieur. Extérieur, il faut que vous êtes bien défensivement, mais après, pour le contre-attaque, je pense qu'on a les joueurs qui peuvent enquêter Écosse et Lituanie. Très important, ça sera le premier match à Écosse. Ça sera très, très important. On mesure au moins un point. Et si on fait un match nouveau, ou même si on gagne, après, on peut être libre pour notre match contre l'Espagne. Et tout va se jouer dans les matchs contre l'Lituanie. Ça, je pense, peut-être, ça va finir.
On sait que le public tchèque a été longtemps gâté. À l'époque où vous jouiez, où il y avait Pavel Nedved, Poborski, Kohler et d'autres joueurs encore. Aujourd'hui, on a le sentiment que le public a du mal à se réhabituer, je veux dire, au pain quotidien. Je veux dire, c'est la République tchèque est un petit pays et il y a un renouvellement de génération qui se fait difficilement. On a l'impression que le public est quand même très critique à votre égard, même si c'est vrai, les prestations ne sont pas brillantes.
Oui, ça c'est un petit peu problème parce que notre public ils étaient habitués pour le spectacle, pour voir toujours les grands joueurs comme Pavel, comme Karol Poborski. Et en ce moment, c'est vrai, l'équipe est totalement différente. On essaie de donner la chance pour les jeunes joueurs aussi. Mais ils sont critiques. C'est comme ça. Notre place dans le ranking FIFA, on est 30e. On n'est plus dans le premier 5. Hein, c'est pas pareil. Mais nos supporters, ils attendent toujours grands joueurs, beaucoup de buts. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Mais je pense que bon, si on a toujours la chance de qualifier, les publics seront derrière nous. Mais il faut montrer plus. Et je pense qu'on n'est pas content. Ça, c'est une chose aussi. Il faut dire que, bien sûr, qu'on n'est pas content de ce qu'on montre jusqu'à là. Il faut que les joueurs, ils pensent qu'est-ce qu'ils pensent de leur jeu et qu'ils donnent plus.
Est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous comprenez ces critiques, ou alors est-ce que vous êtes plus tolérant à l'égard des joueurs, vous dites bon, c'est voilà, on fait jouer ce qu'on a de mieux actuellement et il faut savoir l'accepter. Il y a des pays comme justement comme l'Écosse qui est votre adversaire, où le public est toujours derrière son équipe quelle que soit la qualité de son jeu. On l'a vu à Prague où ils ont fait un match déplorable, où ils ont fait que défendre pendant 90 minutes et il y a quand même leurs supporters qui sont là pour les soutenir.
Oui, c'est bien sûr, ils ont avantage ce pays que le public est toujours derrière eux. Je pense que le public n'est pas content, moi aussi je ne suis pas content. Alors ça veut dire que j'espère que les joueurs ils sont pas contents non plus. J'espère qu'ils sentent qu'ils peuvent donner plus. Si je sais c'est un maximum qu'est-ce qu'ils montent sur le terrain, ok, d'accord, je comprends. Mais je pense qu'ils peuvent donner plus. Je pense que nous comme équipe on peut vraiment montrer plus que jusque-là.
Et comment qu'il justement pour que les joueurs donnent plus? C'est quand même pas une question de motivation quand on
a
une motivation.
Non, c'est travail, c'est boulot pour moi, pour le sélectionneur, pour le monde qui est autour de l'équipe. C'est travail, c'est boulot pour nous.
Dernière chose, liée un peu à l'actualité, on l'a dit, votre prochain match officiel éliminatoire pour l'Euro 2012 va se disputer au mois de septembre en Écosse. Avant cela, il y avait un tournoi prévu au Japon, auquel la République tchèque devait participer. Qu'en est-il actuellement? Et envisagez-vous toujours de vous rendre là-bas, étant donné les conditions?
C'est vrai, en ce moment, c'est une grande question pour nous, parce que la situation actuelle au Japon, on sait tout le monde ce qui se passe là-bas. On n'est pas sûr qu'on va participer à ce tournoi. Et si on ne joue pas ce tournoi, on cherche adversaire pour un match en mai-juin. Mais si le Japon veut jouer ce tournoi, il faut qu'on discute, parce que vraiment beaucoup de joueurs ils sont pas trop contents de partir en ce moment dans cette situation au Japon. Il nous faut qu'on trouve une solution tous ensemble.
C'était le manager de l'équipe nationale tchèque de football, Vladimír Šmicer, au micro de Guillaume Nargue. Fin de ce tour d'horizon de l'actualité tchèque, préparé pour vous par la section française de Radio Prague. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.